Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5. Et nous allons lire les versets 33 à 37. Matthieu, chapitre 5. Nous commençons la lecture au verset 33. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Et voici la parole de Dieu. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis, de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. » Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, et non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Et c'est la parole de Dieu. Nous poursuivons donc notre étude de ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Et dans cette section, le Seigneur Jésus passe d'un sujet difficile à un autre. Et après avoir traité la question de la colère, le Seigneur est passé à la question de la convoitise, et avec sous-point la question du mariage et du divorce. Et maintenant, il enseigne au sujet de la parole, surtout des paroles irréfléchies ou des paroles trompeuse. Et comme toujours, ces intérêts passent par nos actes pour se focaliser sur notre cœur. Un mot sur la nécessité de l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. La préoccupation du Seigneur Jésus dans ce passage, c'est la vérité. Et il sait que nous luttons avec la vérité, la véracité de nos propos, l'exactitude dans nos paroles. On dit que parler ne coûte pas cher, parce qu'on dit des choses souvent irréfléchies, sans y réfléchir. On promet des choses sans réfléchir. Les politiciens sont connus pour ne pas tenir leurs promesses. En cherchant, je suis tombé sur une étude de France Info, qui a repris les promesses du candidat Emmanuel Macron, qui sont dans un livret qui a plus de 400 promesses qu'il a fait en 2017. Et à la fin du premier mandat, en 2022, France Info en a sélectionné une centaine. Et sur ces 100 promesses de campagne, 46 ont été tenues, 28 ont été partiellement tenues, 26 n'ont pas été honorées. Des promesses comme réduire d'un tiers le nombre de parlementaires, élargir les horaires d'ouverture des services publics aux usagers, ou couvrir en très haut débit l'ensemble du territoire. C'était en 2017, il fallait que ce soit fait en 2022, ce qui n'a pas été le cas. Mais il n'y a pas que les politiques qui agissent de cette manière, les gens ordinaires aussi, nous-mêmes, les hommes par exemple au travail, en fin de journée, appellent chez eux. Ils disent « la journée a été chargée, je serai à la maison à 18h, 18h15 au plus tard, ou 18h30, vraiment la dernière limite, et j'appellerai si j'ai du retard ». Malheureusement, on sait que près de la moitié des Français ont violé cette promesse sacrée « je promets de te prendre comme époux ou comme épouse légitime, jusqu'à ce que le mort nous sépare », et on sait très bien que près de la moitié des Français ont violé cette promesse. Il est clair que nous avons besoin de la parole du Seigneur Jésus-Christ, et c'est ce qu'il nous dit, c'est ce qu'il enseigne dans ces versets que nous voulons considérer ce matin. Tout d'abord, le contexte de l'enseignement. Dans ce chapitre 5 de Matthieu, le Seigneur a dit au verset 20 à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Les scribes et les pharisiens étaient célèbres, étaient réputés pour leur observance impeccable des règlements extérieurs de la loi, comme eux, ils les comprenaient. De sorte que les disciples de Jésus ont dû se demander comment ils pourraient dépasser les pharisiens et les scribes. Mais le Seigneur Jésus ne demande pas à ses disciples de dépasser les pharisiens en obéissant à plus de règles. La justice supérieure d'un disciple de Jésus-Christ n'est pas essentiellement une question d'observance juridique. Rappelez-vous, le Seigneur dirige le regard au-delà de l'acte de commettre un meurtre pour aller voir le problème du cœur, le problème de la colère. Il regarde au-delà de l'adultère pour voir le problème de la luxure. Et ici, il regarde au-delà des serments pour voir la question de nos paroles, de dire la vérité. Le Seigneur Jésus ne nous exhorte pas à redoubler d'efforts pour observer la loi, parce que nous ne le pouvons pas. Les commandements de Dieu sont difficiles et nous devons y faire face. Nous devons l'avouer à Dieu, l'avouer à nous-mêmes, que nous trouvons les commandements difficiles et nous devons nous tourner vers lui, lui demander sa grâce et sa miséricorde. Et beaucoup de personnes préfèrent moins de franchise de la part de Dieu et de la part du Seigneur Jésus-Christ. Ils nient que la volonté de Dieu soit aussi claire, ou alors ils vont redéfinir la loi pour qu'elle soit plus facile à obéir. Et à l'époque du Seigneur Jésus-Christ, les pharisiens avaient tendance à faire cela. Quand ils faisaient face à une loi qui était difficile, ils la réduisaient à quelque chose de gérable. Et on est nous-mêmes enclins à faire la même chose, à redéfinir les commandements de Jésus-Christ pour les rendre plus gérables. Par exemple, quand les rabbins entendaient « Aime ton prochain comme toi-même », ils ont redéfini le terme de « voisin », de « prochain » de manière étroite, de sorte que seul un tout petit pourcentage de personnes pouvaient être considérées comme leur prochain. Et avec un petit groupe, ça devenait plus gérable. Ils pouvaient aimer ce petit groupe. Lorsque les rabbins lisaient « Tu ne commettras point d'adultère », ils vont s'abstenir effectivement de l'adultère littéral, mais ils se réservent le droit de divorcer de leur femme, d'en prendre une autre à n'importe quel moment, pour n'importe quelle raison, comme on l'a souligné la semaine dernière. Et de cette façon, ils ont enlevé une grande partie de la tentation de commettre l'adultère en rendant légal le fait de divorcer de leur femme et d'en prendre une autre quand ils le voulaient. Ils ont fait la même chose avec les serments et le fait de dire la vérité. Et le Seigneur Jésus va corriger cela en exposant le véritable sens de la loi. Et comme Jean-Claude l'a souligné, et le Seigneur en relisant, si vous relisez le sermon sur la montagne, le Seigneur Jésus ne cesse de dire « Vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis. » Alors quelle est l'utilisation, quelle est la nature et l'utilisation des sermons? C'est le point suivant. Au niveau le plus élémentaire, le Seigneur Jésus dit à ses disciples qu'ils doivent dire la vérité. Mais le Seigneur attire un principe en discutant de la question des serments. Les serments étaient une convention qui était conçue pour restreindre les mensonges et les fausses promesses. On utilise moins souvent aujourd'hui les serments et les vœux aujourd'hui, mais on les réserve aux situations officielles. On va prêter serment lors d'un mariage. On va prêter serment quand on est appelé à témoigner devant les tribunaux. Mais si on utilise moins les serments aujourd'hui, on utilise des conventions similaires qui ont le même objectif. On fait des promesses. On fait des promesses à nos amis, à nos familles. On signe des contrats. Les serments, les promesses, les contrats visent le même objectif. Inciter les gens à dire la vérité, à tenir parole, surtout quand ils sont tenter de mentir ou de rompre un engagement. Dans les temps bibliques, les serments et les vœux avaient une place plus importante. Israël avait appris à garantir la véracité de ses paroles en jurant de dire la vérité devant l'Éternel. Les Israélites invoquaient le nom de l'Éternel comme témoin. Ils l'invoquaient aussi comme juge, qu'ils seraient jugés s'ils ne disaient pas la vérité. Si quelqu'un jurait que quelque chose était vrai, cela devait être vrai. Si quelqu'un jurait d'accomplir un acte, il fallait qu'il le fasse. Le Seigneur Jésus résume la leçon de l'Ancien Testament quand il dit au verset 33, « Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. » Le Seigneur savait qu'il y avait plusieurs lois de l'Ancien Testament qui bénissaient, qui réglementaient l'usage des serments et des vœux. J'en cite que quelques-unes. Nombre 30, verset 3, par exemple. « Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. » Deutéronome 23, verset 21. « Si tu fais un vœu à l'Éternel ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir. » Lévitique 19, verset 12, « Vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. » C'est toujours la volonté de Dieu que nous fassions ce que nous disions, en particulier dans les contextes solennels, lorsque d'autres dépendent de nos paroles. Même si les circonstances changent, même si nous recevons une meilleure offre, même si la fidélité devient difficile, même si la tentation de rompre un serment semble insupportable, même si le respect du vœu entraîne une perte réelle, même si personne d'autre que Dieu ne saura que nous avons rompu notre vœu, on devrait faire ce qu'on dit, ce qu'on promet. On ne devrait ignorer un vœu que s'il nous oblige à commettre un péché. L'enseignement du Seigneur, donc, semble utile. Mais pourquoi le Seigneur veut-il le modifier? Il y avait l'abus des serments. Et c'est un réel problème. D'abord, à l'époque du Seigneur Jésus-Christ, les rabbins ont concocté un système, on dira, alambiqué, complexe, qui a vaincu le but même des serments. Ils ont dit que les serments pouvaient être, soit ils pouvaient ou non être contraignants, selon par quoi on jurait. Ils ont dit par exemple que si on jurait par Jérusalem, ce n'était pas contraignant, mais si on jurait vers Jérusalem, cela devenait contraignant. Si on jurait par le temple, ce n'était pas contraignant, mais si on jurait par l'or du temple, cela devenait contraignant. Si on jurait par l'autel du sacrifice, ce n'est pas contraignant. Si on jurait par le sacrifice qui était sur l'autel, cela devenait contraignant. Ces décisions étranges ont perverti le but des serments. Au lieu de faire appel à Dieu pour garantir son honnêteté, ils ont formulé des serments afin d'éviter la punition de Dieu quand ils parlaient de manière malhonnête. Les rabbins ont gâché le but qui était de dire la vérité avec Dieu pour témoin. Ils l'ont remplacé avec le but de pouvoir s'en tirer avec des paroles trompeuses. Et puisque ce système était corrompu, puisque les serments ne garantissaient plus rien, le Seigneur Jésus-Christ dit au début du verset 34, « Mais moi je vous dis de ne jurer aucunement. » Aucunement. Il supprime cette distinction artificielle entre les vœux qui invoquent le nom de Dieu et donc qui étaient contraignants, et ceux qui ne le font pas, qui n'étaient pas contraignants, selon l'interprétation des chefs religieux juifs. Et le Seigneur dit que quel que soit l'élément par lequel nous jurons, cela fait référence à Dieu, parce qu'il a créé le ciel et la terre. Si quelqu'un jure par le ciel, il invoque Dieu, car le ciel est son trône. Verset 34. Si quelqu'un jure par la terre, il invoque Dieu, car c'est son marchepied, début du verset 35. Si quelqu'un jure par Jérusalem, il invoque Dieu, car c'est la ville du grand roi, verset 35, la fin du verset 35. Si quelqu'un jure par les chevaux de sa tête, il invoque Dieu, car Dieu gouverne sur tout un chacun. Bien entendu, quand il dit au verset 36, ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre un blanc ou noir un seul cheveu. Bien entendu, on peut changer la couleur de nos cheveux en allant chez le coiffeur, mais on ne peut pas changer la couleur naturelle de nos cheveux. Ce que nous jurons est lié à Dieu. Tous les serments appellent Dieu comme témoin, parce qu'il est partout, il a créé toutes choses, il supporte tout, même la couleur de nos cheveux. Ce que les serments révèlent, les disciples du Seigneur Jésus devaient dire et sont appelés à dire la vérité. Le Seigneur Jésus dit que nous devrions être si fidèles à nos paroles que le besoin de serment disparaît, qu'un simple oui ou un simple non suffit. La parole d'un disciple devrait être si fiable que personne ne demande plus. Et ceci mène à une question importante. Si le Seigneur Jésus veut que les disciples ne prêtent pas serment, alors pourquoi Dieu prête-t-il serment? Plusieurs reprises, on a fait référence à Abraham tout à l'heure, un peu plus loin en Genèse chapitre 22, verset 16. Dieu lui-même dit « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. » L'auteur de la lettre aux Hébreux nous le rappelle que Dieu a confirmé ses promesses à Israël par un serment. Dans Luc chapitre 1, le cantique de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, s'écrit, il dit « C'est ainsi que Dieu a manifesté sa miséricorde envers nos pères. Il se souvient de sa sainte alliance selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père. » Et puis, on pourrait citer d'autres passages, Actes chapitre 2, Dieu a juré de ressusciter ce rédempteur. Il a promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants, un des descendants de David, sur son trône. D'autres passages, on peut penser. Alors pourquoi ? Pourquoi Dieu fait-il quelque chose qu'il nous dit de ne pas faire? Un commentateur le résume en disant simplement « Ce n'est pas pour accroître sa crédibilité, mais c'est pour susciter et confirmer notre foi. » Dieu ne prête pas serment pour accroître sa crédibilité, comme si elle était mise en doute, mais c'est parce que nous avons entendu, parce que nous avons dit tellement de mensonges, nous avons appris à douter. Nous sommes habitués à ne pas tenir notre parole, à voir les autres ne pas tenir leur parole. Et Dieu sait que nous avons besoin d'assurance, d'être assurés de sa fiabilité. Il sait que nos normes sont si basses naturellement que nous nous attendons à des faussetés de la part de tout le monde, y compris lui. Et donc Dieu prête serment pour garantir que ce qu'il dit est vrai. Mais qu'est-ce que nos serments révèlent? Si les serments de Dieu révèlent que nous sommes habitués à entendre des mensonges, que révèlent nos serments? Et on va y répondre en prenant quelque chose qui ressemble au serment, à savoir la promesse. Réfléchissez aux raisons pour lesquelles nous faisons des promesses. Supposons qu'on soit jeudi soir, qu'un père dit à son enfant, « Si tu m'aides à nettoyer la cour aujourd'hui, je t'invite à manger une glace samedi. » Et un enfant qui se méfie peut poser la question, « Tu le promets ?» Cette demande de promesse est un témoignage contre le père. Parce que cela montre que l'enfant a appris qu'il ne peut pas se fier entièrement à la parole de son père. Peut-être que dans le passé, l'enfant a déjà nettoyé la cour, mais n'a jamais reçu la crème glacée qui était promise. Et lorsque l'enfant l'a rappelé à son père, le père lui a dit « Ah, j'ai oublié !» ou « Quelque chose est arrivé !» ou « Tu aurais dû me le rappeler !» L'enfant a donc appris à demander une garantie. Et quand il demande « Tu le promets ?» en fait, il veut dire « Est-ce que tu es sincère ? Est-ce que je peux compter sur toi ?» La demande même d'une promesse témoigne du fait que nous ne sommes pas fiables. Lorsqu'un enfant demande « Tu le promets ?», il témoigne que notre « oui » n'a pas toujours été « oui ». Idéalement, la parole d'un parent devrait être si fiable qu'il n'arrive jamais à un enfant de demander une garantie. Notre parole devrait être si fiable que notre « oui » signifie « oui » et pas probablement, que notre non signifie non. Et dans ce cas, la nécessité des serments et des promesses devrait disparaître. L'existence même de coutumes telles que les serments, telles que les promesses, révèle que la vie humaine est entachée par la tromperie. Et le Seigneur Jésus-Christ nous dit que la famille de Dieu, les disciples de ses disciples devraient être une exception à cela. Dans le royaume de Dieu, nous devrions être si véridiques que nous n'avons besoin ni de promesses, ni de serments. Alors, quelle est l'utilisation des serments aujourd'hui? Est-ce qu'on peut prêter serment aujourd'hui? Est-ce qu'un disciple de Jésus-Christ peut prêter serment aujourd'hui? Même si certains chrétiens disent le contraire, je pense que nous le pouvons. Certains disent que nous devons prendre les paroles du Seigneur littéralement, ne jamais faire de serment. Mais quand on doit, dans la vie d'aujourd'hui, prendre certaines responsabilités dans le monde militaire ou dans le monde civil, on doit prêter serment de loyauté envers la nation ou envers les lois. Et c'est donc cette argumentation de ne jamais prêter serment implique une volonté à renoncer à toute fonction publique. Mais la plupart des chrétiens prennent une approche différente. Ils suivent les réformateurs Martin Luther et Jean Calvin, entre autres, pour distinguer entre le discours public et le discours privé. Dans le privé, quand on est entre amis, quand on est entre frères et sœurs, on devrait simplement dire la vérité et que le besoin de serment et de promesses disparaisse. Mais comme Dieu lui-même prend pas faire des serments pour le bien de ses auditeurs, des auditeurs qui doutent, on peut aussi parfois s'engager pour le bien de ceux qui doutent. Les serments ne sont jamais idéaux, mais la loi les permet, la loi les réglemente, parce que les serments peuvent nous faire réfléchir à deux fois avant de parler. Ils nous encouragent à être véridiques. Une grande partie de la loi, et là je prends le terme au sens général, c'est-à-dire la loi de Dieu, mais aussi la loi civile, une grande partie de la loi a le même but de réglementer, d'atténuer les effets du péché. Les lois sur les choses telles que le divorce, les serments, la propriété, sans parler du code pénal tout entier, ne décrivent pas la volonté parfaite de Dieu. Elles freinent, sont là pour freiner les effets du péché. Alors, quelles sont les normes pour le disciple? Premièrement, nous devons être tellement véridiques que si quelqu'un nous connaît bien, il ne sollicitera jamais un serment de notre part. Même si nous pouvons être appelés à accorder des serments ou des promesses à quelqu'un qui ne nous connaît pas. Dieu a fait des vœux pour aider ceux qui ne savaient pas à quel point il était fiable. Le Seigneur Jésus-Christ a parlé sous serment lors de son procès. L'apôtre Paul a également fait des promesses en appelant Dieu comme étant son témoin. Et par conséquent, pour le bien de ceux qui savent, ou qui ne savent pas plutôt, que nous sommes fiables, nous pouvons faire un serment. Et pour la même raison, deuxièmement, nous pouvons prêter serment dans la salle d'audience ou avant de prendre certaines responsabilités. Mais il y a une troisième raison plus large. En permettant et en réglementant les serments, Dieu nous permet de nous impliquer dans la vie et dans la vie publique, et surtout dans la pollution et le désordre de la vie publique. Il ne nous dit pas « retirez-vous de peur que vos mains ne soient touchées par le mal » parce que nous avons déjà été touchés par le mal. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, parce que nous sommes unis à celui qui est la vérité, nous sommes la lumière du monde. Dans cette génération perverse et corrompue, Paul dit en Philippiens 2, « Nous brillons comme des flambeaux dans le monde. » Prêter serment, c'est s'engager dans le monde des menteurs. Nous apportons la puissance transformatrice de Dieu à ce monde. Ah, pourquoi dire la vérité est un défi? Le Seigneur Jésus ne veut que nous disions la vérité. Et nous voulons probablement le faire. Mais pourquoi est-ce que nous échouons si souvent? Il y a deux raisons. Il y a la légèreté de nos paroles. Il y a aussi la peur de dire des vérités dures. La lâcheté dans nos paroles refuse d'apporter de mauvaises nouvelles à quelqu'un face à face. La lâcheté, c'est dire aux gens ce qu'ils veulent entendre, que ce soit vrai ou non. C'est apporter de bonnes nouvelles face à face. C'est ensuite envoyer de mauvaises nouvelles par des notes de service ou par des réseaux sociaux. Le courage, c'est dire la vérité aussi simplement, aussi purement que possible, qu'elle soit agréable ou non. Souvent, on veut que les gens nous aiment, alors on veut apporter de bonnes nouvelles. On pense qu'on est gentil quand on agit de cette façon. Mais à la fin, c'est cruel. Ce n'est pas gentil de refuser de porter des nouvelles qui sont mauvaises et qui sont pourtant nécessaires. Imaginez par exemple que quelqu'un se réveille un jour avec un mal de tête sévère. Cela persiste. La personne va voir un médecin. Le médecin fait des examens qui vont révéler un cancer. Et le cancer, mais le médecin est quelqu'un de sensible. Il déteste voir les gens brisés par de tels diagnostics. Et il va dire à cette personne, « Je comprends pourquoi vous avez peut-être ces maux de tête, mais je tiens à vous assurer que d'ici quelques mois, vous ne sentirez rien. » Quand on ne dit pas la vérité, on est cruel. Les salariés qui ont travaillé pour un chef qui dit la vérité et pour un chef qui cherche à plaire préfèrent habituellement celui qui apporte de mauvaises nouvelles rapidement et qui tient de petites promesses plutôt que de faire confiance à quelqu'un qui se contente simplement de faire de grandes promesses. Et c'est la voix du Seigneur Jésus-Christ. Il n'a jamais caché la mauvaise nouvelle au sujet du péché. Il a tenu toutes les promesses qu'il a faites, quel que soit le coût. On a parlé de lâcheté, mais il y a aussi l'autre raison, les paroles légères. On vit dans un monde qui encourage les discours irréfléchis. On prend les mots à la légère, très souvent. Et les commerçants plus âgés déplorent cette ère où la parole d'un homme était sa caution, était son obligation. On vit dans un monde d'imprimés, d'écrans d'ordinateurs. Si on dit « parler ne coûte pas cher », on dit aussi « mais je veux voir cela noir sur blanc ». Si c'est imprimé, on pense que cela compte plus. Et on doit réévaluer la parole qui est dite, de sorte qu'elle ait la même valeur que la parole qui est écrite. Certains d'entre nous parlent tellement qu'on prête à peine attention à nous-mêmes. Et nous devons, en tant qu'Église, retrouver la vision de Dieu concernant le caractère spécial de ce que nous disons, des mots que nous prononçons. Comme le dit l'apôtre Jacques, nous devrions être lents à parler, prendre soin de soupeser nos propres mots. Quel est le cœur du sujet ? Les normes relatives aux serments et aux promesses sont suffisamment claires. On sait que notre devoir est d'être aussi fidèle à notre parole que l'usage des serments et des promesses disparaît. Mais il y a un problème. Bien qu'on sait que nous devons tenir parole, on déforme et on brise la vérité. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que nous faisons des promesses que l'on a à peine l'intention de tenir ? Est-ce que c'est un désir de plaire aux autres ? Est-ce que c'est un dispositif qu'on utilise pour échapper aux conversations difficiles, de sorte que si quelqu'un nous presse, on dit enfin qu'on va faire quelque chose juste pour se débarrasser de cette personne. Parfois, on hésite plus à cause de la folie que du péché. On ne tient pas notre parole parce qu'on n'anticipe pas les obstacles facilement prévisibles. On aurait pu tenir parole si aucun obstacle n'était survenu, mais les obstacles se dressent et notre échec est dû à la folie plutôt qu'à la malice. Mais d'autres échecs ne sont pas si innocents. On est plus enclin, par exemple, à violer des paroles que l'on a dites envers ceux qui sont faibles, comme un enfant, beaucoup plus qu'une promesse faite à ceux qui sont plus puissants, comme au patron, par exemple. On en brise des engagements qui sont moins visibles, celui de partager les tâches ménagères à la maison plutôt que de garder. Et on garde ceux qui sont visibles, comme celui de diriger une réunion ou d'occuper une position publique. Mais le but, bien sûr, le but final, c'est la perfection. Et je crois que le Seigneur Jésus-Christ veut que nous tirions la conclusion que nous sommes incapables. Incapable de respecter ses exigences. Plus son sermon est long, plus il est exigeant. Et regardez le défi de l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, combien il devient de plus en plus difficile. Versets 31 et 32, le premier mot du Seigneur concerne le mariage. Il dit comment nous devons traiter celui qui est le plus cher, le plus proche de nous. Versets 33 à 37, il parle de la vérité, que ce que nous devons dire aux autres. Versets 38 à 42, il déclare que nous devons la miséricorde, pas la vengeance, à celui qui nous fait du mal. Et versets 43 à 47, il nous dit d'aimer nos ennemis, d'aimer ceux qui nous font du mal par dessein. Et la dernière parole de ce chapitre est encore plus difficile, verset 48, « Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. » Mais les normes du sermon du Seigneur Jésus-Christ sont trop élevées pour nous. On n'a ni le cœur pur, ni le caractère qu'il exige. C'est pour ça que l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ nous conduit à l'Évangile. On doit bien sûr essayer, on essaye de mettre de côté la colère, la convoitise, le mensonge. Mais en essayant, on voit que le péché est comme une plante grimpante dont la racine est trop profonde. Personne ne peut la tuer. On est incapable de suivre les normes du Seigneur Jésus-Christ. Et on a donc besoin de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. On a besoin de l'Évangile. Le Seigneur nous apprend à demander à celui qui donne la norme de nous pardonner de l'avoir brisée. On demande à celui qui a gardé la norme dans une justice parfaite de nous donner cette justice, de nous revêtir de cette justice. Et le Seigneur le fait. Il nous accepte comme ses enfants. Il nous accepte, il nous accorde la ressemblance familiale qu'il exige. Et le commandement le plus dur, au verset 48, est aussi énoncé d'une manière qui donne de l'espoir, parce que littéralement, ce verset se lit « Vous serez parfait, comme votre Père Céleste est parfait. » C'est un commandement, quand on le lit, mais littéralement, on remarque que cela tient une promesse « Vous serez parfait. » en Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle création. Nous sommes déjà une nouvelle création. Et nous attendons une toute nouvelle création au jour de son retour. Il y a un avenir pour le disciple du Seigneur Jésus-Christ. Cet avenir nous fait avancer. Nous penchons vers cet avenir. Cet avenir nous appelle, il nous pousse à aller de l'avant. Nous avons cité, même si nous ne sommes pas attardés là-dessus, mais il y a beaucoup de promesses sur l'avenir du disciple. Verset 5, nous hériterons de la terre. Verset 7, nous recevrons la miséricorde. Verset 8, nous verrons Dieu. Verset 9, nous serons appelés fils de Dieu. Puis verset 48, nous serons parfaits. L'excellence morale de Dieu dépasse largement nos pitoyables tentatives. Mais Dieu est notre Père. En Jésus-Christ. Il s'est approché de nous pour nous aimer, pour nous amener, pour nous transformer, pour nous amener à la maturité. Écoutons donc l'appel du Seigneur Jésus à dire la vérité. Mesurons nos paroles. Parlons avec précaution que notre oui soit oui. Décrivons les événements sans les tordre, sans en faire une pièce de théâtre, sans les embellissements, les exagérations qui peuvent tromper nos voisins. Ne prétendons pas savoir ce que nous ne savons pas. Mesurons chaque promesse pour que nous soyons sincères. De cette façon, nos familles, nos églises, notre société seront plus fortes. Mais admettons aussi que tout en luttant comme nous le voulons pour dire la vérité, nous ne maîtriserons jamais la langue est trop lâche. Le cœur est trop sauvage. C'est pour ça qu'après avoir entendu le commandement du Seigneur Jésus-Christ, nous plaidons pour sa grâce. Dieu le Père nous a dit la douloureuse vérité sur nous-mêmes. Nous sommes pécheurs. Nous sommes en deçà des normes saintes de Dieu. Nous sommes incapables de nous réformer nous-mêmes pour répondre à ces normes. Mais le Père a aussi fait une douce promesse d'envoyer un Rédempteur, de nous délivrer de nos péchés. Il a tenu cette promesse, même si cela lui a été douloureux. Et par sa grâce, nous sommes devenus les enfants de ce Père. Ce Père qui nous a dit la vérité sur lui-même, la vérité sur nous, et la vérité sur notre relation avec lui. Il nous a unis à celui qui est la vérité, le Seigneur Jésus-Christ. Il construit cette nouvelle société où nous sommes appelés à dire la vérité dans l'amour, des vérités parfois dures, pour que nous puissions résoudre un problème. Nous disons des vérités heureuses, sans ajouter de flatterie, pour essayer de gagner une faveur. Dire la vérité, ça fonctionne. Écoutons donc l'appel du Seigneur Jésus-Christ à rechercher la vérité dans tout ce que nous disons. Mesurons nos paroles. Confessons chaque jour, reconnaissons que nous ne maîtrisons pas notre langue. Plaidons pour la grâce de Dieu, qu'il pardonne nos échecs, qu'il continue de nous transformer à l'image de son Fils, pour qu'un jour, comme il le promet, nous soyons parfaits comme notre Père céleste est parfait. Que Dieu nous aide à méditer sur ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.